et médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone pour cette première de la saison 2021-2022. Nous sommes à Morges, en Suisse, au festival Le Livre sur les quais et en public. Bonjour Morges! Enfin une émission en public, on est très heureux de vous retrouver, un grand merci d'ailleurs pour votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Nous sommes au bord du lac Léman, sur le magnifique plateau installé par la RTS. C'est la fête aujourd'hui, avec bien sûr la rentrée littéraire qui est à l'honneur. Michel Laya vous racontera l'incroyable histoire du mécanicien et pilote automobile Louis Chevrolet, star aux États-Unis. Il était pourtant francophone et né en Suisse. Nous irons en Inde avec Ananda Devi qui cible la violence sociale et la pauvreté qui frappe les femmes et les enfants en Inde. Un livre coup de poing qui va marquer cette rentrée, peut-être même les sélections des prix littéraires. Lui aussi va marquer la rentrée et les prix. Louis-Philippe d'Alembert raconte avec une certaine distance l'affaire George Floyd. Décryptage et débat dans quelques minutes. Et puis nous célébrerons les 30 ans des éditions de l'Olivier avec Geneviève Brisac et Olivier Cohen. On commence cette émission en public par le retour des coups de cœur et des coups de gueule, de la douceur, avec un premier coup de cœur en cette rentrée littéraire avec Déborah Damblon, qui représente la Belgique cette saison encore. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Alors avant de nous parler de votre coup de cœur de la rentrée, une nouvelle vous concernant, vous avez changé de librairie paraît-il.
Ah ben oui, il faut changer parfois dans la vie, Emmanuel.
Et alors, dites-nous, où est-ce que vous êtes maintenant ?
Eh bien, dans une librairie qui s'appelle Le Public by Filigrane. J'ai allié deux de mes passions, la librairie et le théâtre. Donc c'est une librairie qui s'est créée dans un théâtre, Le Public, et avec la grande et merveilleuse et belle librairie Filigrane. Et donc c'est de bonheur pour le prix d'un,
bon,
et
bah,
je
génial.
Suis ravie.
Bon, bah parfait. Félicitations Déborah. Votre coup de cœur, alors pour commencer,
merci,
vous ouvrez la saison, un premier livre à conseiller aux auditeurs.
Oui, avec un coup de cœur et un immense coup d'enthousiasme pour Mammouth ou la montée des eaux de Antoine Wauters.
Ah bah oui.
Parce que c'est un roman, mais totalement incroyable, d'un auteur tout à fait incroyable. Il raconte la plongée quotidienne d'un vieil homme syrien dans un lac et dans ses souvenirs. Et c'est magique, c'est écrit en vers libre, et grâce à la magie de ces mots, on devient le personnage littéralement, littérairement, c'est à lire absolument.
Eh oui, et d'ailleurs, Antoine Wauters, c'était l'invité de la librairie francophone estivale la semaine dernière, c'était la dernière de la saison.
Absolument.
On a misé aussi sur lui, vous allez entendre parler de lui, Antoine Wauters, retenez ce nom, Mahmoud ou la montée des eaux, chez Verdier, magnifique éditeur. Merci Déborah, bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en plateau avec nous ici à Morges, vous pouvez applaudir Dominique bien sûr, qui représente la Suisse. On part aussi pour une nouvelle saison avec vous, avec un coup de gueule.
Oui.
Allez.
Ah oui. Allez, on commence fort. Non, c'est en ces temps de rentrée littéraire, moi ce qui me frappe c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent, plus que de gens qui lisent bientôt. Et il y a quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais. Et c'est le cas de le dire. Mmh. Ce qui commence juste à m'agacer, ce sont les auteurs connus ou non qui surfent sur cette vague et qui proposent une pléthore de courts vidéos.
Ah bon ?
Absolument comme la cuisine. Si
qui fait ça? Ah ben si, c'est public.
Ah ben il y a un monsieur très connu, son prénom c'est Éric Emmanuel.
Éric Emmanuel, voilà. Schmitt donc.
Oui voilà, entre autres. Et puis, et on devrait quand même rappeler que les écrivains, les vrais, ils ont passé beaucoup plus de temps à lire fait qu'à regarder, qu'à apprendre des recettes. Parce qu'en fait il arrive que la sauce prenne pas.
Bon ça vous énerve quoi.
Oui.
Très bien, bon restez avec nous, restez comme ça Dominique toute la saison. C'est parfait. Deux autres libraires vont nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Sophie Todesca.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France depuis la librairie Les Temps Modernes à Orléans. Soyez la bienvenue une nouvelle fois. Et au Canada, c'est Josiane Letourneau. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Comme annoncé la semaine dernière dans la librairie estivale, on en parlait à l'instant, on vous retrouve chaque semaine à la radio et chaque mois dans la version télé, comme Déborah et comme Dominique d'ailleurs. Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie du Square. Tout va bien Josiane ?
Oui, ça va très bien.
Bon allez, merci d'être avec nous. Vous restez bien sûr tout au long de cette émission avec nous.
No justice, no peace. I just wanna live. No peace. God protect.
break me. I'm a young black man, doing all that I can to stand. Oh, when I look around.
Et bonjour Louis-Philippe D'Alembert.
Bonjour.
Sur cette musique de Kidwan Bryant qui a 12 ans et qui a chanté cette chanson à la mort de George Floyd. Il a réuni des millions d'internautes comme ça qui sont venus voir sa vidéo et cette chanson. Il a ensuite été signé dans une grande maison de disques chez Warner. Et voilà le résultat aujourd'hui. Vous êtes un écrivain haïtien, auteur d'une dizaine de romans, lauréat du prix Goncourt en Suisse avec Mur Méditerranée en 2019. Et vous publiez en cette rentrée 1000 Rocky Blues aux éditions Sabine Westpizer. Vous racontez le destin terrible d'un homme ordinaire qui ressemble à George Floyd, car il meurt comme lui. Il vit à Milwaukee au lieu de Minneapolis. Il subit le même contrôle de police abusif. Pourquoi avez-vous romancé un fait réel ?
Vous connaissez sûrement le roman De sang froid de Truman Capote.
Oui.
Donc ça m'a d'une certaine façon inspiré. Donc c'est la première chose. Mais j'ai romancé parce qu'avec le roman, on arrive à dire plus de choses, en fait. Vous imaginez bien que je n'ai pas écrit ce roman immédiatement seulement après cette histoire de George Floyd. Il y avait, en 2014, l'histoire de Eric Garner, qui était mort dans les mêmes conditions. Donc, c'est un pays que j'aime énormément, d'ailleurs. Les États-Unis, qui fait partie de mon histoire familiale depuis ma naissance, pratiquement.
Vous avez vécu, d'ailleurs, à Milwaukee.
J'ai enseigné plutôt à l'université, comment dire, là-bas. Donc, c'est une histoire, c'est un pays qui est à la fois fascinant et dérangeant sur plein de choses. Donc, du coup, il y a eu cette histoire et j'ai voulu en faire un roman. C'était pour moi une porte d'entrée, en fait.
D'accord, mais alors vous êtes très collé à la réalité, Louis-Philippe D'Alembert, parce que l'affaire Floyd, on la reconnaît dans l'entourage de ce personnage, dans la façon dont il est mort, la façon dont il y a eu cette mobilisation derrière. Vous revisitez une histoire vraie, donc ça peut gêner parce que votre personnage, Emmett, il est différent, il a une vie plus posée que Floyd. Floyd a été condamné plusieurs fois pour possession de drogue, vol, braquage, par exemple. Mais Emmett, lui, il est exemplaire dans votre histoire, même s'il commet des erreurs personnelles. Ce n'est pas le même personnage.
Ce n'est pas le même personnage, mais en même temps, il y a une question. Quand vous dites que George Floyd a eu des histoires de drogue, etc. Donc, il y a un des personnages du roman, et Ma Robinson, qui vous dirait « Et alors ?»
C'est-à-dire que ça ne justifie rien. D'accord.
Ce n'est pas parce qu'il aurait été dealer qu'il a le droit de mourir
de cette façon. Bien sûr.
Donc,
mais vous dressez un autre personnage.
Oui,
avec
un autre personnage qui est
un autre profil.
Comment dire, le rêve américain, c'est-à-dire c'est un gamin qui vient des ghettos de Milwaukee, donc d'un quartier qui s'appelle Franklin Heights, qui essaie de s'en sortir par le sport. Donc c'est comme de ces gamins qui vivent dans une famille monoparentale avec une mère qui est seule, qui essaie d'élever cet enfant. Et pour lui, la seule porte de sortie, c'est le sport universitaire. Et puis, malheureusement, il va avoir deux accidents et il ne pourra pas continuer. Et retour, d'une certaine façon, à la case départ.
C'est ça. Alors, c'est une star en devenir du football américain. Malheureusement, il va échouer. Pourtant, il est sérieux, il est résistant. Il se tient à l'écart aussi de son ami dealer. Il a tout pour lui, cet homme-là. Et vous construisez comme ça ce roman avec les voix de son entourage. Ceux qui l'ont connu de près et qui racontent leur vie, leur lien avec lui. Il y a, par exemple, l'institutrice qui a été marquée par ce gamin. Qu'est-ce qui la fascine, elle ?
Elle est blanche. Donc, c'est une institutrice assez âgée maintenant, qui est blanche, qui vient des beaux quartiers de Milwaukee, donc qui a été prise dans les années 68, où on luttait pour les droits civiques aux États-Unis. Donc, elle y était de ce combat-là, contre, comment dire, l'avis de son entourage, de sa famille. Donc, elle s'est battue, elle a, à l'époque, fumé tout ce qui pouvait se fumer, et puis, elle a fini par se dire, tiens, il faut mettre la main à la pâte, on va se battre, on va militer autrement que par les mots, quoi.
Mais pourquoi elle est fascinée par Emmett?
Parce que c'est un garçon charmant, parce que justement, on le dit pas, mais les profs ont parfois leur petit chouchou.
Emmett,
c'était son petit chouchou, et puis elle a été fascinée par ce gamin qui vivait donc sans père.
Et qui chante
des chansons qui ne sont pas de son âge. En fait.
Exactement. Elle est marquée parce qu'il chante un blues lourd de sens. Écoutez.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother,
And the whole world let them peoples go down their frame.
Les paroles que vous retranscrivez dans ce livre, Louis-Philippe d'Alembert, Alabama Blues de J.B. Lenoir, l'histoire d'un policier blanc qui a tué une sœur et un frère noir en Alabama. Et comme vous le disiez, effectivement, ce n'est pas nouveau, ça continue. On va y revenir, bien sûr, sur ces drames. On va laisser la place à nos libraires. Louis-Philippe, vous le savez, il y a des libraires qui ont lu votre ouvrage en Belgique, en Suisse et au Canada. On va commencer avec la Belgique. Tiens, Déborah Damblon à Bruxelles. Non, parce que je montrais Dominique Bressoux, mais finalement, j'ai changé d'avis. Allez-y, Déborah.
Voilà, encore moi, j'aime bien.
Oui.
Eh bien, moi, j'ai tout aimé dans votre roman, Monsieur d'Alembert, tout. D'abord, la pertinence du sujet, hein, bien sûr. Et puis, ce portrait du racisme à la fois ordinaire et hors norme, l'intelligence, la force de la construction de votre roman, votre écriture tellement juste, et puis l'absolue humanité de votre récit, avec une simplicité, avec une force telle qu'on ne peut qu'en ressortir bouleversé, et puis les yeux grands ouverts.
Bien, Dominique Bressoux, pour la Suisse, c'est à vous cette fois. Vous êtes d'accord avec votre collègue ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Déborah. Moi, ce livre m'a impressionné par la facilité avec laquelle on le dévore dès les premières pages, parce qu'on est face au narrateur et votre écriture s'adapte si bien. Vous vous glissez tellement bien dans la peau des personnages qu'on les voit, qu'on les entend et on les comprend totalement. Et grâce à vous, la fiction nous aide à mieux mesurer les dégâts de la peste raciste. Alors moi, en toute sincérité, j'en ai pas, mais je vous tire quand même mon chapeau, monsieur d'Alembert.
Bravo Louis-Philippe d'Alembert, on va laisser la place au Canada avec Josiane Nétourneau, voir si elle est d'accord. Josiane.
Ah ben oui, c'est sûr que je suis d'accord. Ben voilà. Louis-Philippe d'Alembert, en fait, à travers les voix multiples de vos narrateurs, c'est pas seulement la vie et la mort terrible d'un homme que vous esquissez, mais celle de toute une communauté miroir d'une Amérique qui ne fait pas rêver et dont le véritable crime est l'achèvement des plus faibles. En fait, l'émotion poignante que j'ai ressentie en écoutant vos personnages, ça paraît dans ma voix, je le crois, elle m'accompagne encore au-delà de la dernière page lue et elle raffermit en moi la certitude qu'il faut souvent une chorale pour raconter la vérité d'un être.
Voilà, l'avis de nos libraires. Louis-Philippe d'Alembert, ici à Morges, au Festival Le Livre sur les Quais, face au lac Léman, avec un petit vent comme ça qui emporte nos feuilles. C'est assez étonnant aujourd'hui parce qu'il y a des nuages, il y a le lac qui a une couleur un peu sombre aujourd'hui. Vous êtes ravis, Louis-Philippe,
oui,
je suppose.
Dominique parlait tout à l'heure de lecteur. Si avec ça, j'ai pas de lecteur, je n'en aurai jamais.
Bon, il y a dans ce livre une démonstration de la détresse sociale, de la différence raciale. Vous montrez qu'aux États-Unis, le racisme, le rejet des Noirs n'est toujours pas réglé. Pire, ça remonte, ça revient peu à peu, plus radical. Vous prenez comme personnage Emmett. C'est le prénom. Emmett qui fait référence à Emmett Till, un ado de 14 ans, assassiné par des Blancs en 1955, car soupçonné d'attouchement, les assassins ont été acquittés. L'histoire se reproduit sans cesse.
Quand on dit même pas d'attouchement, d'avoir parlé,
oui,
à une jeune fille blanche.
Qui aurait dit avoir été touchée par lui.
Et qui, des années après, dira que c'était tout à fait faux, qu'elle avait inventé tout ça. Entre-temps, Emmett a été assassiné. Mais avant même Emmett 1955, c'est aussi Emmett, il faut savoir, en hébreu, signifie vérité. Et si on enlève, vous connaissez l'histoire du golem aussi, si on enlève le E, donc Met, en hébreu aussi, signifie mort. Donc c'est une histoire pour moi de vérité et de mort. Donc c'était cette histoire que je voulais raconter, mais en même temps une histoire aussi de dignité. Parce qu'au-delà du racisme, ce qu'il faut retenir, moi si j'ai envie de retenir un personnage, c'est le personnage de Ma Robinson et qui va lancer une grande marche dans la lignée des marches de 63 ou de 65 à Selma en Alabama, et pour essayer de réconcilier tout ce monde-là. Parce que c'est ça, le vrai enjeu. L'idée, c'est comment faire vivre ensemble, comment faire communauté,
c'est ça,
une seule et unique communauté.
Et avec le gérant de la Supérette qui va regretter d'ailleurs dès le début du livre d'avoir appelé le 911. Il y a l'officier de police qui a tué Floyd, comme dans votre roman avec Emmett, qui a été condamné à 22 ans et demi de prison. Sa femme l'a quitté avec ses deux filles. Ça c'est vrai, hein, c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire de votre livre aussi. Il a raconté qu'il avait seulement appliqué des techniques enseignées à l'école de police pour sa défense. Il a tout perdu, cet homme-là. Avez-vous eu de l'empathie pour lui en écrivant ce livre, Louis-Philippe d'Alembert ?
Oui, parce qu'il a fallu que je me mette dans sa peau. Et justement, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de faire, c'est d'éviter de faire un roman complètement manichéen, quoi, en fait. C'est-à-dire essayer d'entrer dans la peau de chacun des personnages, dans la peau des personnages féminins, entre autres, mais aussi de ce type-là, c'est-à-dire qui applique des règles qu'on lui a enseignées, qui est quelqu'un qui essaie de se battre, qui vit, qui a ce qu'on appelle aux États-Unis le mortgage, en fait, je ne sais plus pour le coup comment on dit en français, quand on a eu un emprunt à la banque, on doit payer les traites, en fait.
Oui, un crédit.
Donc, et tout qui est là, qui essaie de s'en sortir aussi avec sa femme qui est cambodgienne et ses deux filles, et puis qui se retrouve devant ce fait-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et ça, c'est, j'imagine, le rôle de tout romancier et de toute romancière, mm-hmm. qui est on voudrait savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et moi, j'essaie d'être au plus près de ce personnage.
Il paye pour les autres ou pas, d'après vous?
Oui. Oui, il paye pour les autres, et ça ne signifie pas pour autant qu'il ne mérite pas. Comment dire?
Oui, parce qu'il est resté 7-9
minutes sur le
cou. Genou appuyé sur le cou jusqu'à ce qu'il ne respire plus.
Mais il paye pour ceux d'avant et ceux d'après, parce qu'il y en a eu aussi après.
Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert, mesdames et messieurs, avec Milwaukee Blues. Vous pouvez l'applaudir, Louis-Philippe d'Alembert. Paru chez Sabine Vespizer. Bonne chance pour ce livre, Louis-Philippe. J'espère qu'on reparlera de vous d'une façon ou d'une autre. Je n'ai rien dit. À suivre, les 30 ans des éditions de l'Olivier célébrées ici à Morges, et la mauricienne Ananda Devi qui sort un roman événement cette rentrée, un livre militant qui dénonce la société indienne et le drame de la pauvreté chez les femmes et les enfants. Avant cela, voici Ours et M. Ce n'est pas un dessin animé, c'est un duo avec deux grands artistes de la scène musicale dans la librairie francophone. On est à Morges, en Suisse, et en public.
Un revolver dans les journaux, l'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, c'est idiot.
C'était Ours et M dans la librairie francophone avec Petit Jeu.
Les médias francophones publics.
Radio France. RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Olivier Cohen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des éditions de l'Olivier. Le festival du livre à Morges célèbre ici même et tout le week-end vos 30 ans. Bon anniversaire Olivier.
Merci.
Et ce week-end, je crois que c'est en plus votre vrai anniversaire.
Oui, ah, le c'est vôtre. Exact.
Voilà. Vous avez 45 ans désormais. On peut applaudir Olivier Cohen.
Merci.
Vous êtes venu avec l'un de vos auteurs les plus fidèles, une auteure, Geneviève Brisac, qui est avec nous. Bonjour Geneviève.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Merci, vous êtes fidèle aux éditions de l'Olivier depuis 1994 avec votre livre Petite. Votre premier roman en 87, c'était chez Gallimard. Comment on arrive à l'Olivier? Comment fait-on ce choix quand on vient de chez Gallimard et que la maison vient d'ouvrir?
C'est probablement un petit peu pour énerver sa famille et ses parents. C'est vrai que quand vous avez publié 3 livres aux éditions Gallimard et que vous annoncez que, eh bien, cette fois-ci, vous partez aux éditions d'Olivier qui n'existent pas encore, votre famille a le sentiment, pas entièrement infondé, que vous êtes en train de sacrifier une magnifique carrière.
Et pourtant, non.
Et pourtant, on ne sait pas encore, car on ne le sait qu'à la fin.
Alors, quand même, 2 ans plus tard, en 96, le prix Fémina.
Alors, avant, quand même, je peux vous expliquer pourquoi.
Oui,
j'ai
si
rejoint l'édition de l'Olivier. Oui. Donc, Olivier crée sa maison fin 90, début 91. Et moi, j'ai énormément confiance, je l'aime. Et j'ai énormément confiance dans le projet éditorial qu'il a, qui est d'en finir, disons, avec cette espèce de cloisonnement détestable entre le classique et le moderne, les grands auteurs et les petits auteurs, la littérature étrangère et la littérature française, plus que des passerelles où tout le monde, où les écritures, disons, seraient à égalité. Alors je sais qu'on m'a bien expliqué que c'était utopique, mais... Moi, c'est l'idée que j'ai et d'ailleurs que je garde.
Bon, Olivier Cohen, vous avez commencé avec Jean-Claude Fasquel, le patron de Grasset, mort récemment. On lui avait rendu hommage d'ailleurs dans cette émission. Puis chez Mazarine et aux éditions suisses, Payot.
Oui.
Payot qui vous vire un jour comme ça, sans explication.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant puisque le patron de la maison m'a dit, m'a écrit une lettre me disant, après m'avoir fait mon éloge, nos chemins se séparent. Bon, alors, j'ai... Et j'étais fou de rage, évidemment, mais il m'a fait un chèque important qui m'a permis, lorsque Le Seuil m'a proposé de m'associer avec cette maison, de créer les éditions de l'Olivier. Si bien que des années après, en rencontrant l'ancien propriétaire de Payot dans la rue, je lui ai dit, il y avait quelque chose que je voulais vous dire depuis très longtemps, donc il a reculé d'un pas. Et je lui ai dit, non, ne vous méprenez pas. Ce mot est merci.
Eh oui.
Merci de m'avoir mis à la porte. Car sinon, jamais je n'aurais eu la témérité de créer une maison d'édition. Ouais.
Alors vous mettez des conditions quand même aux éditions du Seuil, parce qu'ils vous disent, vas-y, va créer cette maison d'édition. Mais vous dites, ok, à condition que je sois libre. Vous vouliez une liberté totale. Et vous racontez aujourd'hui, vous allez me dire si c'est vrai, que c'est toujours le cas. Vous faites ce que vous voulez à l'Olivier.
Oui, alors c'était peut-être un peu arrogant de ma part, mais je considérais que le rapport financier valait ma liberté et vice-versa. Si on me contrôlait, ce que je ferais aurait beaucoup moins d'intérêt. J'étais vraiment surpris qu'il accepte, mais je crois que Le Seuil n'a pas eu à s'en plaindre.
Non, ça c'est sûr. Il y a eu plein de succès. Il y a eu Jean-Paul Dubois qui a eu le prix Goncourt en 2019. Ça aide, hein, ça, une maison d'édition, un prix Goncourt. Forcément, on se dit qu'on est parti sur 3 ans tranquille ou pas ?
Beaucoup plus.
Beaucoup plus. Mais comment on retient un auteur, Olivier Cohen ?
Alors là, il faudrait que je me pose une autre question, si vous permettez.
Comme vous voulez. Faites les questions et les réponses, si vous voulez.
Parce qu'on dit, comment on choisit un auteur ?
Oui, comment on le retient ?
J'ai plutôt envie de dire... Ce sont les auteurs qui nous choisissent.
Ouais, mais pas
et
toujours.
Par conséquent,
Olivier, vous le savez, pas toujours. Il y a des auteurs qui vous choisissent et que dont vous n'avez pas envie, par exemple. Et puis j'ai un exemple aussi.
Vous pensez, par exemple.
Ah non, je sais pas. Par contre, j'ai un nom à vous donner de quelqu'un qui est parti. C'est pour ça que je vous demande comment on les retient. Olivier Adam, il est parti.
Oui.
Alors qu'il a fait son succès chez vous.
Oui.
Pourquoi il est parti ? Pourquoi vous ne l'avez pas retenu ?
Je ne pouvais pas le retenir parce qu'il sentait que je n'aimais plus ce qu'il écrivait.
Ah.
Et ce que je vous dis là, c'est vraiment en toute franchise, vous voyez. J'aurais pu faire semblant. Et il aurait pu faire semblant. Et on aurait continué comme ça, cas un cas. Son éditrice, Olivier, était partie dans une autre maison d'édition. Et bon, sur le moment, j'étais catastrophé, triste, déprimé. Et après, je me suis dit, au fond, c'est mieux comme ça. Ouais. Il vaut mieux. J'aime beaucoup Olivier Adam. Pendant ces dernières années, je n'avais pas plus le même goût pour ses livres. Il part avec son éditrice. Ben, tant mieux, tant pis.
Geneviève Brisa, comment sont les relations avec les auteurs d'une même maison d'édition? On se pose cette question en cette rentrée littéraire, parce qu'il y a de la concurrence. Plus de 500 livres qui ont été publiés. Vous, comment vous faites au sein même de la maison ou avec les autres? Est-ce que ce sont des relations de concurrence? Je sais que vous êtes mis en retrait de la vie médiatique à cause de ça. La concurrence, tout ça, ça vous plaît pas?
Oui, c'est vrai. C'est un truc que j'avais dit malencontreusement, je le reconnais, en 1996. Ouais. Parce qu'on m'a, comme je venais d'avoir le prix Femina, on m'avait fait plein de propositions d'animation, d'émissions, de trucs. Et j'avais dit non, c'est trop, je veux pas être une cumularde, je vais me mettre en retrait de la vie médiatique. Je m'en suis bien mordu les doigts parce que retrait. Mais enfin bon, j'avais quand même envie qu'on parle de mes livres. Et, et après, c'est drôle ce que vous dites parce qu'on venait tout le temps voir en me disant, alors vous êtes en retrait. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, non, mais...
Du coup, on vous a mis à l'écart, c'est ça? Un petit peu. Oui. Oui.
C'était une mauvaise phrase, mais bizarrement, les mauvaises phrases s'impriment très bien.
Bon, alors, comment sont les relations avec les autres auteurs, pour terminer?
Ça dépend lesquels. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai des amis, des moins amis. Je pense qu'un des grands problèmes de la littérature contemporaine, c'est la légitimation des femmes. Donc, moi, j'ai, comme vous le savez, beaucoup publié de livres pour les enfants.
Pour la jeunesse, oui. Vous êtes une grande auteure jeunesse.
Il y a des immenses auteurs jeunesse, et nombre d'entre eux, des femmes, le sont toujours d'ailleurs. Donc, j'ai des amis. Et puis j'ai des gens qui sont pas mes amis, comme tout le monde. C'est pas une question particulière aux écrivains. C'est vrai pour.
C'est valable dans la vie, voilà, tout simplement. Bon, une femme, il y en a une en plateau. Vous l'avez en face de vous.
Oui, mais je l'admire.
On va la recevoir
beaucoup,
tout de suite. Merci beaucoup, Geneviève Brisac et Olivier Cohen, d'être venus sur notre plateau pour cette première de la saison. Bon anniversaire encore, Olivier. Double anniversaire. Merci. Agnès de Sarthe, qui publie chez vous, sera la semaine prochaine dans la librairie francophone. Vous le saviez? Oui, il savait. Très bien. Bonjour Ananda Devi.
Bonjour Emmanuel.
J'ai un petit cadeau pour vous, écoutez. Cette musique qui vous fait rire, Ananda. Pourtant, vous la citez dans votre livre.
Absolument, qui est-ce? Oui, c'est une chanson, une vieille chanson des années 60. J'ai failli renverser la table.
Oui.
Je suis renversée par la chanson. C'est une vieille chanson d'un film indien de Bollywood, où donc il y a une jeune femme qui danse comme dans tous les films de Bollywood et qui raconte qu'elle a perdu sa boucle d'oreille. Et c'est très tendancieux, en fait, à double entendre, parce qu'elle dit, et puis le soir, mon amoureux a ramené la boucle d'oreille, il a voulu me la remettre à mes oreilles, donc ça...
Un jeu de la séduction, quelque part.
C'est un jeu de la séduction, mais dans le livre, c'est un jeune homme qui se sent fille, qui se sent femme, qui met les mêmes habits, qui fait cette danse aussi. Et qui
Hijra.
Hijra, oui.
Voilà. Hijra. Alors, on va venir sur ce sujet. On vous suit depuis 2006 à Ananda Devi, année où vous aviez reçu le prix des 5 continents de la francophonie. Depuis, vous avez publié une dizaine de livres, dont ce nouveau, Le rire des déesses, chez Grasset. Un livre dont on va beaucoup parler en cette rentrée. Vous êtes très dur avec la société indienne. Vous dites que c'est le peuple, je cite, le plus spirituel et le plus matérialiste qui soit. Vous êtes d'origine indienne, hein, je précise, mauricienne d'origine indienne.
Oui, je crois que c'est une chose qui m'a toujours frappée. Bon, c'est évidemment un continent, l'Inde, c'est multiple, c'est complexe. Mais en même temps, de l'extérieur, on a un peu cette image d'un peuple d'une grande spiritualité. On pense à Gandhi, etc. Mais on ne se penche pas sur les inégalités terribles sociales, les femmes, les castes, etc. Et donc, pour moi, c'est une hypocrisie qui m'a toujours révoltée. Ouais.
Alors, vous nous emmenez dans la ruelle, justement, un coin pauvre de l'Inde, où travaillent des prostituées dans des conditions déplorables. Elles vivent dans ce que vous nommez des cellules. C'est sale, c'est glauque. Elles sont déshumanisées, ces filles-là ?
Oui, absolument. Donc, ce sont un peu... Elles sont des effacées, des invisibles, sauf pour leur corps qui est utilisé quotidiennement. Mais elles n'ont pas le choix, en fait. Hein. C'est les conditions de vie qui les ont menées là, et donc j'essaie de raconter un peu, donc à travers une femme, Vina et sa fille, mais aussi les autres qui l'entourent, qu'est-ce qui fait leur résistance en fait. C'était ça que je voulais vraiment...
Oui, c'est un livre sur la résistance.
Oui.
Parce qu'il y a Vina, effectivement, votre personnage, qui est arrivée là un jour malgré elle, après un viol, avec une enfant qu'elle n'a cessé de rejeter, au point, et c'est inconcevable, de ne pas lui donner de prénom. C'est cette petite fille qui un jour va trouver son prénom elle-même.
Oui, parce que Vina, ce qui lui permet de survivre, c'est sa colère. Une colère envers le monde, envers tout ce qui l'a conduite dans cette ruelle. Et en même temps, en arrivant avec cette petite fille, ce bébé dont elle perçoit évidemment la fragilité, mais aussi le destin, elle ne veut pas avoir cette culpabilité-là. Elle ne veut pas vivre avec cette culpabilité. Donc, elle espère au début que le bébé ne va pas survivre. Et ensuite, elle la cache derrière une cloison. Et il faut dire que dans ces conditions-là, dans ce genre de ruelle qui existe d'ailleurs, les enfants vivent autour de ces femmes. Elles sont là, ils sont là et... Ils ne sont pas scolarisés, ils sont...
Oui, ils n'ont pas d'existence sociale, quasiment
pas.
Bon, on va aller voir du côté des libraires, si vous le voulez bien, Ananda Devi, avec la Belgique et la France. On commence avec un... Bah tiens, il y a le bateau qui arrive, ça tombe bien. On part en bateau du côté de la France, avec Sophie Todescato.
Oui, j'ai trouvé que c'était un livre très réussi dans ses deux ambitions. D'abord, dans la cause militante qu'il porte, de dénoncer la corruption, l'hypocrisie religieuse, de cette société où l'asservissement des femmes et des plus faibles semble vraiment inscrit dans la construction sociale. Mais c'est aussi une réussite romanesque avec des personnages très incarnés, très touchants, et une intrigue qui se déploie dans des lieux et des atmosphères de manière vraiment, vraiment sensible.
La Belgique, Déborah Damblon, êtes-vous d'accord ?
Oh oui, moi j'y étais, mais j'y étais vraiment comme si j'avais été aspirée par une ventouse dans cette réalité sensuelle, collante, dérangeante, qui en même temps nous glace et nous attire aussi. C'est un roman, j'ai trouvé qu'on ressent, mais dans sa chair, qui s'accroche à la peau, quelle force, Madame Devi, quelle trouvaille, et puis quelle lumière à l'arrivée du personnage qui porte la narration. Et j'ai trouvé aussi extraordinaire que vous arriviez à raconter une histoire, mais à nous faire une parabole autour de la force de l'espoir qui arrive à perdurer au milieu de l'inespoir, comme vous dites.
Merci. Voilà, la vie de nos libraires, alors qu'un bateau passe sur le lac Léman devant nous. Nous sommes au Livre sur les quais, en public d'ailleurs, vous les entendez derrière parfois, quand ils applaudissent. La vie des libraires avec ce bateau avec une roue qui tourne, avec des pales, qui lui fait avancer. Ananda Devi, il y a des hijras. Comment vous prononcez ?
Hijra.
Ces femmes qui étaient des hommes, qui, rejetées par leur famille et par la société, ont décidé de s'émasculer au couteau. Il y a une scène horrible dans ce livre. Pour se libérer comme ça de son identité, votre personnage décide de faire cette opération d'une violence inouïe.
Oui, en fait, c'est une communauté très ancienne. Elles existent depuis très longtemps. Elles ont même une origine mythique dans le Ramayana et le Mahabharata aussi. Mais en même temps, donc, on les reconnaît. Elles s'habillent, ce sont des hommes qui s'habillent en femmes et qui, effectivement, pour certaines, choisissent de faire l'opération de démasculation. Mais en même temps, elles sont complètement marginalisées par le reste de la société.
Hypocrisie aussi.
Voilà, exactement.
Parce qu'on les reçoit pour les fêtes, pour les anniversaires.
Oui.
Sauf qu'on les met de côté.
On les met de côté. Donc, la plupart du temps, elles doivent mendier ou se prostituer pour. Et donc, elles sont soumises aussi à des violences policières, par exemple, extrêmes. Donc, je voulais vraiment entrer dans ce personnage-là.
parce que, en fait, encore une fois, elles sont sans identité. En réalité, il n'y a que quelques années, je crois deux ans ou trois ans, qu'elles ont eu droit à avoir une carte d'identité en Inde. Quoi. Non, elles ne pouvaient pas voyager, elles ne pouvaient rien faire.
Alors, vous pointez justement cette religion, Ananda Devi, l'hindouisme, qui valorise l'homme au détriment des femmes, à commencer par Shiva, réputé, vous le décrivez ça, pour son phallus. Alors il y a des temples comme ça, je ne sais pas si ça existe vraiment, où on se prosterne devant une série de phallus de Shiva. Et vous le racontez, ça, le sexe de l'homme règne sans partage sur le monde.
Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle le Shivlingam, c'est-à-dire c'est vraiment le phallus de Shiva. Donc, c'est une pierre arrondie, oblongue, si vous voulez. Et c'est le symbole de Shiva, c'est la force masculine. Et c'est vrai qu'il y a des temples où on se prosterne, on s'agenouille. Ce n'est même pas, disons, dans la conscience des hindous, ce n'est pas... ils ne se rendent même pas compte de cette portée sexuelle.
Pourtant, c'est évocateur.
Oui, c'est évocateur.
Enfin, c'est très bien représenté. Hein, je suis allé voir des photos.
Oui.
C'est pas juste un caillou.
Non.
Il y a ce qu'il faut, quoi.
Oui, exactement. Et donc, c'est vraiment un symbole de cette société qui se prosterne devant l'homme.
Bon, vous écrivez aussi, s'il y a des hommes dont on ne peut pas dire qu'ils sont civilisés, ce sont les hommes de Dieu. On va pas tout raconter, mais il y a un personnage qui va devenir monstrueux et qui va justement être un gourou, parce qu'il est malin cet homme-là. Il a compris la faiblesse des hommes. Il a compris que s'il allait porter la bonne parole, s'il allait prédire comme ça des destins pour des hommes politiques et que ça marche, il deviendrait intouchable.
Oui,
et ça existe, ça.
Intouchable dans l'autre sens, pas dans le sens indien. C'est-à-dire, oui, il est supérieur à tous. Alors, je voulais pas en faire quelqu'un de... Un vrai croyant, c'est un manipulateur, en fait, c'est ça. Et finalement, il va aussi, d'une certaine façon, être vaincu par le sexe, en fait, par son sexe aussi. Ce sont des histoires vraies.
Oui, c'est ça, mais ça existe.
Ça existe, oui.
Des manipulateurs.
Des manipulateurs.
Qui se deviennent pédophiles.
Oui.
Qui utilisent les faveurs sexuelles des prostituées. Enfin, c'est horrible, quoi.
Oui. Oui, mais ça existe. Et en fait, toute cette histoire m'est venue de... on m'a raconté cette histoire que pendant les pèlerinages, les grands pèlerinages religieux, c'est là où les prostituées ont le plus de travail parce que pendant les jours et les semaines, voire les mois que durent les voyages, les hommes ont besoin d'être...
Il faut suivre le convoi.
Il faut suivre le convoi.
Eh ben. Bon, merci beaucoup Ananda Devi. Vous allez entendre parler de ce livre, Le rire des déesses, aux éditions Grasset. Merci Ananda. Merci beaucoup. Le vent se lève. Hein. On a les feuilles qui volent, les livres aussi qui volent. Avant de vous parler de l'incroyable histoire de Louis Chevrolet, qui était suisse et non américain comme on l'imagine, voici l'artiste sénégalais Las dans la librairie francophone. Et on revient ici à Morges au festival Le Livre sur les... bu yarunga ñu dé lér nañu fi la dan xare yow gis nañ la fa fi la dan sentu yow fekk nga ñu fa da nga don ku yaru ñi roy da nga don ku bax ak sa di ko bi We'll be right back. c'était Las avec Yacomome dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
On a attaché sa veste au bord du lac Léman, ici au Livre sur les quais, avec Michel Laya qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez nous raconter la vie de Louis Chevrolet. Tout le monde connaît la marque de voiture américaine. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Chevrolet était franco-suisse. Né en Suisse, il a grandi en Bourgogne. C'est un génie de la mécanique et l'un des premiers pilotes de course automobile. Son parcours est incroyable. Elle lui vient d'où, cette passion pour la mécanique ?
Alors je crois qu'il a un vrai talent et je suis pas sûr que le talent puisse s'expliquer. Mais d'abord c'est un coureur sur vélo. Hein, quand il est môme, il fait des courses de vélo. Il adore la mécanique du vélo. Un jour il voit une première voiture. Il réussit à la réparer alors qu'elle est tombée en panne. Il arrête l'école à 12 ans. Hein, donc il va construire des moteurs, concevoir des moteurs très rapidement, tout seul comme ça. Il a une espèce de don, d'un truc inné comme ça, ouais. Qui le pousse à faire ça. Alors d'où ça vient, comment, je sais pas. Trop.
Alors c'est un novateur aussi, parce que quand il répare les vélos, il se dit que pour une course, ce serait bien de ne pas être obligé de pédaler tout le temps. Parce qu'avant, le pédalier continuait. Donc il imagine avant tout le monde le dérailleur et la roue libre.
Exactement, mais en fait, il va pas concrétiser ça. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées.
Il passe à autre chose.
Il passe à autre chose. Et puis peut-être que ça démontre justement cette espèce de fougue hein, qu'il y a en lui, comme ça. Il va quitter sa famille à 18 ans, partir à Paris, travailler dans des usines en fait automobiles, les premières usines automobiles.
Chez Darac.
Et
deviendra Talbot après.
À Suresnes. Ouais, et puis en ensuite, France. Il se rend compte qu'il a pas de papier. Hein, puisque je l'ai dit, il a arrêté l'école à 12 ans. Il se rend compte ça va être difficile d'avoir une quelconque promotion, donc il part aux États-Unis et aux États-Unis il se fait engager là chez d'autres constructeurs et très rapidement on va repérer en fait ses talents d'abord de pilote, donc ça devient un pilote et c'est les débuts des courses automobiles, donc il faut imaginer que les gens courent à deux, hein, il y a le pilote, il y a le mécanicien qui est à côté, les gens risquent leur vie, c'est des casse-couilles, il y a quelque chose d'une... Comment dire ça, des fous du volant. Hein. On meurt en course. Ils ont tous des épithètes homériques hein, en quelque sorte. Lui, c'est le Daredevil Frenchman, hein, le casse-cou français. c'est comme ça que les Américains l'appellent. Mais en même temps, les courses, ça lui fait un peu peur. Il a toujours ce génie des moteurs. Et en fait, ce qu'il veut, lui, c'est construire des voitures.
Ouais. Alors, il se sent bridé à chaque fois. C'est pour ça, comme ça, qu'il passe de la Bourgogne à Paris. De Paris, ensuite, à Montréal. Hein. Il va passer par le Canada, par le Québec. Et à ce moment-là, il arrive, il rencontre, c'est incroyable sa vie, vraiment. Hein. Il rencontre un bijoutier, un célèbre bijoutier de Montréal, qui a une voiture. Sauf qu'il s'aperçoit que lui qui veut construire des voitures et travailler dans des entreprises qui fabriquent des voitures, il n'entend aucune voiture à Montréal. Ouais, il n'y en a pas, quasiment pas, il y en a deux, trois.
Oui, c'est ça. Il y a pas de voiture, donc il a la pression parce qu'il a des choses grandes à faire, mais que c'est pas au Canada qu'il va les faire. Donc il prend ses clics et ses claques, il s'en va avec une bonne somme d'argent dans la poche parce que ce bijoutier est généreux, et il débarque à Brooklyn. Et là, à Brooklyn, il se rend compte que oui, là des voitures il y en a, et là il y aura vraisemblablement des choses à faire. Alors en arrière-fond, voilà, il y a toute cette toile aussi de l'Amérique, c'est évoqué discrètement, mais de cette espèce d'effervescence. Bah, vous savez, Virilio, le philosophe, a beaucoup écrit sur les moteurs, quoi. Les moteurs sont tous les moteurs, hein, à commencer par le moteur à vapeur jusqu'au moteur numérique d'une certaine manière, sont vraiment des choses qui véritablement bouleversent l'existence humaine, hein, avec des conséquences parfois tragiques, hein, mais bon voilà, lui donc il a la pression parce qu'il a quelque chose d'important à faire, et il va parfaitement réussir puisqu'il va fonder, il va être avec le fondateur de la General Motors, et ils vont lancer la marque Chevrolet.
Sauf qu'il y a une petite subtilité terrible, parce qu'il va perdre beaucoup de choses. On va en parler juste après les libraires. Il y en a trois qui ont lu votre roman, la France, le Canada et la Suisse. On va commencer avec vous, Dominique Bresson.
Alors moi, ce qui m'a vraiment touchée dans votre livre, c'est le contraste entre cette volonté inébranlable de gagner, cette absolue croyance dans le progrès d'une part, et d'autre part, cette naïveté confondante, presque de la candeur de Chevrolet, tout au long de sa vie. Et rien que pour votre style qui colle merveilleusement bien à ce rythme saccadé de sa vie, il faut vous lire.
Voilà. Le Canada avec Josiane Nétourneau, fan de sport automobile, je crois, Josiane.
Oh non, absolument pas. Hein. Et bien, en fait, c'est pour ça que ce roman est formidable, Michel Laya, parce que j'ai absolument aucune passion pour ça. Et on entre dans ce livre-là comme sur des chapeaux de roue. J'ai été même un peu décoiffée par son rythme au départ, mais le récit de cette passion, ben, elle est si formidable à suivre qu'elle justifie totalement cette intrépidité folle, voire cette savante économie de mots qui fait briller des instants d'écriture comme des pépites saisies au fil de la route romanesque. C'était ma première lecture de votre œuvre, mais certainement pas la dernière. Merci pour cette lecture vive, imagé et irrésistible.
Irrésistible. Michel Laya. Je vais mettre un petit bémol, Michel, si je peux me permettre. Le passionné de Formule 1 que ceux qui me suivent sur Internet savent va vous dire que j'ai l'impression que vous ralentissez le rythme. C'est qu'il est trop fougueux pour vous, ce Louis Chevrollet. Vous faites des allers-retours comme ça avec le passé, le présent à son époque. Hein. Vous faites des allers-retours comme ça dans les périodes et même dans les courses. Par moment, vous ralentissez le rythme. Vous n'allez pas au bout de la description. Vous n'allez pas au bout de ce que vous pourriez faire en tant que commentateur d'une course, parce qu'à un moment, vous le devenez. Est-ce qu'il est trop fougueux pour vous, cet homme-là ? Trop rapide ?
C'est possible, je sais pas. Enfin, il est à la fois il est fougueux, c'est-à-dire que comme beaucoup peut-être aussi de grands artistes ou de grands sportifs, c'est-à-dire que dès le moment où il est au volant de sa voiture, il se transforme.
Ouais.
Il devient un autre.
Ouais.
Mais une fois qu'il redescend de sa voiture, c'est un type qui a une bonté humaine, c'est un type qui a la main sur le cœur. Il fait venir toute sa famille, tous ses frères et sœurs, depuis la France jusqu'aux États-Unis. Il les accueille, il leur donne des moyens de réussir leur vie. Enfin, voilà quoi. Il y a une espèce de grande bonté en lui. Donc, il y a un petit peu cette alternance, ces allers-retours. Comme ça, il y a une dialectique en lui.
Ah oui, c'est pour ça que vous temporisez parfois, peut-être.
Peut-être,
ouais.
Ouais. Enfin, vous savez, le livre, il faisait le double de pages.
Oui, j'imagine.
Il a fondu.
Quoi. Il a fondu. Allez, la France, Sophie Todescato qui nous écoute. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je chipote un petit peu aussi. Je suis un peu d'accord avec vous, Emmanuel. Ah. C'est-à-dire, c'est un livre qui n'a aucun défaut majeur, dans le sens où on prend vraiment plaisir à voir défiler devant nous ce qu'est la mécanique de cette vie, dans ses embardées, dans ses lignes droites, dans ses hasards. Mais je suis tout de même restée un peu à distance, comme si, malgré l'élégance de l'écriture qui est vraiment incontestable, il manquait à ce livre un peu du goût du risque de son personnage pour que j'aime complètement. Mais je dois bien vous dire que je n'ai pas ou à peine le permis de conduire, donc peut-être que ceci explique cela. Je ne sais pas.
Si ça peut vous rassurer, mon éditrice, quand je lui ai donné le manuscrit, je lui ai dit oui, c'est le type qui était avec le directeur de la General Motors. Et elle m'a dit la General quoi donc on était assez mal partis aussi au départ.
Bon, Louis Chevrollet devient une star, une légende qui est en marche, mais tous ses choix vont pas toujours être très bons. C'est un rêveur, un idéaliste. Il va perdre un jour son mécanicien, son bras droit adoré lors d'une course, puis l'un de ses frères. Et là, il est traumatisé. Et toute sa vie, il sera guidé comme ça par sa passion des courses automobiles, au point de négliger le business qui porte son nom. Car un jour, avec un associé, il crée la marque Chevrollet pour construire des automobiles de qualité. Sauf que ça se passe pas très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Louis Chevrollet ?
Michel Laya. Voilà, il y a avec ce Billy Durand qui était le fondateur, mais qui s'est fait virer de la General Motors, effectivement, ils ont fondé cette marque Chevrollet. Chevrollet a fait une première voiture et puis ensuite ils se sont engueulés, quoi. Parce que c'est un fougueux, c'est un bagarreur, voilà, il tient sa liberté. Ils se sont disputés, mais en fait, en se disputant, il a cédé les droits sur son nom. C'est-à-dire que la marque Chevrollet a continué, est devenue, il y a encore 2 millions de Chevrollet qui se vendent chaque année aux États-Unis aujourd'hui, hein,
oui.
Est devenue cette espèce de monstre économique.
Mais même de son vivant, hein.
De son vivant,
parce qu'il y a des concurrentes.
De voilà.
Mais sauf que les concurrentes, elles sont de mauvaise qualité. Au départ, ce sont les concurrentes de mauvaise qualité, pas chères, qui marchent.
Oui, c'est ça, la Ford T, etc.
Voilà. Après, Chevrollet arrive.
Oui, mais
et lui, il est ruiné alors qu'on en vend des milliers, des millions.
Exact. Enfin, c'est pas qu'il est ruiné, c'est que lui, il touche pas un rond.
Oui, c'est ça.
Il touche pas un rond là-dessus.
Incroyable.
Mais en même temps, il veut faire des voitures. Alors, il va quand même, juste pour la petite histoire, il va faire une autre. Il va inventer une autre marque. Il va appeler ça les Frontenac.
Voiture de sport.
Château Frontenac. Et son frère, qui est un pilote extraordinaire aussi, qui s'appelle Gaston, mais qui malheureusement, comme beaucoup d'autres, va se tuer en course, va gagner en 1920 sur une Frontenac construite par Chevrollet, Indianapolis, les 500 miles d'Indianapolis, qui est déjà la grande course mythique.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Donc il y a une espèce de d'odyssée familiale aussi, là derrière, qui est assez troublante.
Une véritable odyssée, la vie des Chevrollet de Michel Laya. Merci beaucoup, Michel. Merci d'être venu ici à Morges, bord du lac Léman.
Merci.
Merci d'être fidèle à cette émission aussi. À très bientôt, deuxième tome, avec une autre figure des courses automobiles. Moi, je suis preneur. Un petit truc sur Sénat, par exemple. Bref. Bon, elle n'est pas suisse. Allez, c'est paru chez Zoé. Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires avec la suite des coups de cœur et des coups de gueule. Sophie Todescato, un coup de gueule en France pour cette rentrée littéraire.
Oui, une déception plutôt qu'un coup de gueule, Emmanuel, dans le sens où il s'agit du roman de Thomas Reverdy qui s'appelle Climax, qui vient de paraître en cette rentrée littéraire chez Flammarion. Une déception parce que ce nouveau roman ne manque pas de qualité, celle qu'on connaît à Thomas Reverdy, la phrase, le souffle, mais c'est plutôt du côté de la construction que je ne suis pas complètement convaincue. On a en effet une alternance avec, en écho de l'intrigue principale qui est très passionnante, ce n'est pas le problème, plusieurs chapitres qui sont inspirés par les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, l'imaginaire de la mythologie scandinave. Et j'ai trouvé que cet effet de contrepoint était un peu artificiel et qu'au lieu de donner plus de portée au livre, au contraire, il en faisait un peu tomber la tension. Voilà.
Très bien. Le Thomas B. Reverdy, le nouveau aux éditions Flammarion. Vous savez quoi? Vous avez donné envie de le lire, en fait.
Bon, c'est une opinion. C'est fait pour ça. Tant mieux, tant mieux.
C'est Climax, le titre. Merci beaucoup, Sophie Chose. Yann Les Tourneaux, au Canada, un coup de cœur pour conclure.
Oui, puis pour cette première chronique de la saison, j'avais envie de prolonger la chaleur de l'été. Et quoi de mieux qu'un recueil intitulé « Pomme-grenade » de l'autrice, comédienne et slameuse Elkana Talbi, chez Mémoire d'encrier. On entre dans ce recueil par les chemins du cœur et du corps, sans jamais oublier la dimension politique que celui-ci porte quand on aborde toutes les réalités de la peau. Mais « Pomme-grenade », c'est un jus acidulé, c'est une explosion, c'est la poésie des saveurs d'un amour qui ébranle et auquel on s'abandonne malgré les vacarmes de nos vies.
« Pomme-grenade » d'Elkana Talbi aux éditions Mémoire d'encrier. Merci beaucoup, Josiane.
La librairie francophone.
Avant de conclure, le son de l'outre-mer avec un extrait d'une nouveauté musicale. Voici l'artiste martiniquais Yanis Odoua.
On aurait pu faire semblant, mais ce n'est pas le style de la maison. On aurait peut-être dû se vendre pour de l'argent, mais ce n'est pas le style de la maison. On a choisi de faire autrement, quitte à y passer plus de temps, pour ne pas perdre la raison. Les majors, on a su faire sans indépendants jusqu'à présent, pour ne pas perdre la raison. Woyoy, 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 toujours viser l'horizon. Pas perdre la raison. Woyoy, 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 toujours viser l'horizon. Woyoy, 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 pour ne pas perdre la raison. Toujours viser l'horizon. On assure nos fondations, c'est comme ça qu'on se construit. Fidèle à nos positions, c'est comme ça qu'on se conduit. On préfère travailler le fond, même si ça fait moins de bruit. C'est en suivant les saisons qu'on en récolte les fruits. J'en ai vu se brûler les ailes, monter le temps de hit. Mais demain qui s'en rappelle? Vouloir atteindre son but, c'est une démarche naturelle. Te trompe pas de lutte pour être universel. Woyoy, 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 toujours vivant. Woyoy, 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 pour ne pas perdre la raison.
C'était Yanis Odoua avec Viser l'horizon, originaire de la Martinique. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince à Paris avec Jérôme Nussbaum, José Moreno et Gilles Ozaman à la technique ici à Morges. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de la RTS et de Radio-Canada. Merci au public de Morges d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à nos invités, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici pour cette première de la saison. La semaine prochaine, retour en studio avec Agnès de Sarthe, Mehdi Charef, le bédéiste Didier Tronchet, entre autres. À très bientôt, bonne semaine, bon week-end, salut. N'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole. À suivre Barbatruc, nouvelle formule avec Dorothée Barba.